Alors, quelles sont les principales raisons du divorce? On en a déjà trop parlé. Connaissons-nous les positions de l'Église et leur signification sur la séparation et le divorce? J'en ai déjà parlé. La séparation de corps, c'est quand vous ne pouvez plus vivre ensemble, ça devient absolument intolérable et horrible, mais vous restez mariés. C'est ça le problème. Et donc, vous devez vous réconcilier, vous devez vous aimer, vous devez vous soucier l'un de l'autre. Et même si vous obtenez la nullité de votre mariage, parce que vous avez simulé le consentement, vous aviez une maîtresse, vous aimiez une autre personne, vous êtes homosexuel refoulé et vous ne l'avez pas assumé en le disant, en l'affrontant, mais vous finissez par faire exploser votre couple à cause de cette blessure, de ce défaut. On peut encore dire que c'est un défaut, ou à moins que cet enregistrement écouté par des juristes fasse que je sois mise en examen dans un mois. Ben oui, mais attention, ça rigole pas, hein. Dans certains pays, si les parents disent aux enfants de ne pas devenir homosexuels, on peut leur retirer les enfants. C'est-à-dire que de dire à des enfants de ne pas devenir homosexuels, ça ne peut pas dire grand-chose. Parce que des homosexualités, il y en a de diverses sortes. Voyez. Et parfois, vous n'y pouvez rien, comme dit Charles Aznavour. Mais si vous voulez, si vous allez vers le mariage, il faut que ça soit des mini-tentations, des mini-imaginations. Parce que vous portez dans une sexualité complémentaire. Corps et esprit, masculin, féminin. Le transgenrisme est un mensonge absolument incroyable. On reste un homme, on reste une femme, après on peut être efféminé, on peut se couper les cheveux courts et jouer à l'homme. Comme vous avez des couples lesbiens qui sont un peu comme ça, c'est impressionnant, hein, vous avez la femme, elle est là. Oui, c'est plutôt névrotique hein, que réel. Hein. Enfin voilà. Donc moi, il y avait une personne comme ça qui avait épousé un homme d'une quarantaine d'années. En fait, il voulait socialement avoir une femme. Et elle était résignée. Tout ça, je lui ai dit, non, madame, faites une nullité de mariage. Il vous a menti, il a simulé, et puis voilà. Et donc, nullité de mariage, c'est l'immaturité de nos jours, l'immaturité grave. C'est pas l'incompatibilité d'humeur, hein. Parce que les fiançailles sont faites pour quand même savoir si vous engueulez toutes les 2 minutes, oui, il vaut mieux pas se marier, hein. Mais si ça va, si vous avez des moments très heureux, plein d'illusions, tout ça, youpi. Voilà, ben c'est que vous êtes amoureux. Voilà. Et donc, la nullité de mariage, dont on abuse de nos jours, avec des tribunaux ecclésiastiques plus ou moins complaisants, c'est pas une solution, hein. C'est vraiment pas une solution. Aimez-vous. Alors, si vraiment la séparation de corps, c'est quand le mariage est devenu absolument odieux et impossible. Enfin, la vie commune, la vie commune. Mais on est tenu à la fidélité, à la prière pour l'autre, on attend l'autre. Alors, ah oui, mais il s'est remarié, il a même des enfants, vous êtes là comme à attendre qu'il revienne, il reviendra jamais. Eh bien, il faudra porter votre amour, et votre blessure, comme la croix. Mais au bout de 2 ans de mariage, non, là on va essayer une nullité. Mais au bout de 15 ans de mariage, ben là c'est une vraie, c'est une, il nous faut, et nous le verrons, hein, surmonter notre égoïsme et surmonter notre violence personnelle, hein, qui fait la dispute, qui fait la querelle, qu'on relève tout, qu'on n'est jamais content. Voilà. Pourquoi l'Église demande-t-elle de ne pas mener la vie commune avant le mariage sacramentel? Eh bien, pour pas, si vous voulez, s'habituer à être dans une vie conjugale avec possibilité d'arrêter. Et liberté totale de dire, ben, du jour au lendemain, ben, bon, on se sépare. Parce que ça fausse le futur. Parce que dans le mariage, ben, on ne peut pas. Et alors les gens repoussent le mariage civil de nos jours en disant, parce que c'est un signe d'ailleurs que les gens ne veulent pas divorcer s'ils repoussent le mariage civil. On voudrait éviter le divorce, et c'est quand même quelque chose de fort hein, dans la nature humaine. On voudrait éviter la séparation. C'est pour ça qu'on dit, bon, je ne le connais pas encore assez, on va attendre encore un peu, c'est le mariage à l'essai. Mais. Du coup, le mariage risque d'être toujours un essai, même après un mariage civil, même après un mariage religieux. Et quand on promet, on promet. Quand on s'engage, on s'engage. Par exemple, nous, quand on est séminariste pendant 5 à 6 ans, est-ce qu'on sait exactement ce que sera la vie du prêtre? Mais quand on fait le pas, on promet, il n'y a plus de retour en arrière. Et le retour en arrière qu'on appelle la reconduction à l'état laïque, avec même la levée du célibat, parce que on reste prêtre. Mais comme on avait eu une promesse et comme la spiritualité catholique pousse le prêtre à vivre comme Jésus, eh bien, c'est une blessure. Mais c'est pas il y a eu la discussion pour le mariage, l'ordination d'hommes mariés, le mariage étant une bonne chose, saine, eh bien, un prêtre peut être marié. Mais sa consécration à la prière et à la connaissance et à l'amour de Dieu redonné aux autres est moins intense, et moins complète. Quand on s'engage, c'est fini. Et c'est fini dans la religion, c'est pas un métier. C'est-à-dire que même après la mort, on reste prêtre. On est marqué définitivement par ce pouvoir qui nous a été donné de sanctification, de transformer l'hostie dans la présence du corps et du sang du Christ, de pardonner les péchés au nom de Jésus. Ça marque notre âme pour toujours. On y croit ou on n'y croit pas, mais dans la religion catholique, c'est une réalité, c'est une vérité enseignée. Et donc quand vous êtes ordonné prêtre à 25 ans, c'est tôt, hein? Vous êtes rentré à 18 ans, vous êtes ordonné à 25 ans. Quand vous êtes ordonné à 28 ans, à 30 ans, ben vous avez devant vous, bam, plusieurs décennies, hein? Et même si vous avez un coup de mou, il va falloir quand même continuer. C'est comme dans le mariage. Voilà. 50 ans de mariage, c'est pas possible. Mais c'est incroyable, d'ailleurs, comme les étapes du mariage. Vous avez quand même tous connu, même si justement on dit oui, mais on a vu des gens se séparer, même des gens de 60 ans, qu'est-ce que c'est triste, c'est dur, machin, est-ce que ça va m'arriver? Quand vous connaissez des couples qui ont 50 ans de mariage et qui apparemment et réellement sont dans une belle vie de couple, on se dit vraiment, c'est deux âmes qui se connaissent et qui s'aiment. Voilà. Pourquoi l'Église demande-t-elle de ne pas mener la vie commune avant le mariage sacramentel? Est-ce au nom d'un code moral? Ben, oui aussi. Hein. D'une sagesse humaine pour aider chacun à se choisir? Est-ce dans l'attente de l'engagement du Christ dans le sacrement de mariage? Et c'est surtout justement dans l'attente de l'engagement. Comment envisageons-nous la régulation des naissances? Donc, la pilule est un péché. C'est d'office et chimiquement, vous empêchez l'acte naturel sexuel d'aboutir. Le préservatif aussi. Si vous attrapez une maladie contagieuse, eh ben vous êtes héroïque. Alors, c'est pas facile, hein, mais à un moment donné, il y avait une discussion comme ça avec le grand rabbin de France, un imam et un cardinal, le journaliste dit, au sein d'un couple marié, il y en a un qui attrape le sida, est-ce qu'ils peuvent poser l'acte sexuel avec un préservatif? Grand silence. Mais le rabbin a dit, ben non, parce que l'acte sexuel doit toujours rester naturel. Waouh! Vous avez le cardinal qui est tombé dans les pommes. Lui, il n'a pas osé le dire. Et ça vous donne le vertige, n'est-ce pas, de cette nature humaine et de la noblesse de l'acte sexuel. Parce que de toute façon, hein, le plastique hyper bien fait n'existait pas pendant des siècles, hein. Alors comment on a fait quand on était malade? Quand on avait quand quelqu'un était vraiment malade et tout ça, ben on restait en couple et on portait cette épreuve. Voilà. Je vous l'aurais dit. En ce qui concerne la méthode Billings, dans les préparations de couple de nos jours, et plus particulièrement chez les catholiques, on est là, on dit, mais vous inquiétez pas, hein, vous n'avez pas le droit au préservatif, vous n'avez pas le droit à la pilule. Hein, comment dire, le stérilet, par contre, c'est abortif, hein, faites attention. C'est non seulement un péché, mais le stérilet, l'enfant s'accroche et ensuite se décroche. Ça, c'est évident. Donc, il faut. Le stérilet est vraiment, comment dire, quelque chose de très faux. Et alors, donc, on est là, on dit, mais vous inquiétez pas, vous n'aurez pas cet enfant. On vous permet d'avoir une paternité responsable. Non, non. Alors, vous allez prendre la méthode des températures et la méthode de la glaire. C'est la méthode Billings. Ah, moi, j'ai vu un truc américain, mais les protestants là-dedans sont les chefs, les rois, parce que eux, ils sont hyper puritains, hein, donc pas de pilule. Vous avez un tableau. Alors, les températures, est-ce qu'elle est. Comment dire, dense, pas dense, liquide, pas liquide, machin, tout ça, mais c'est au millimètre près. Hein. Mais vous pensez qu'à ça tous les jours. Hein. La femme, elle est là, c'est la femme. Hein. Bonhomme, mais tranquille. Et donc, il est là. Ah non, là, c'est pas possible. Là, on peut avoir un enfant, on peut pas avoir un enfant, tout ça. Il est vrai qu'au quatrième enfant, vous pourriez éventuellement utiliser ces méthodes. Si vraiment vous êtes dans la pauvreté, la misère, que vous commencez à manger que des pâtes et des patates au beurre le dimanche. Quels sont nos désirs et nos craintes? Avons-nous le désir de nous informer et de nous former pour vivre nos choix de la façon la plus responsable dans ce domaine? Avons-nous pu envisager le cas d'avoir un enfant handicapé physique ou mental? On ne les tue pas, on ne les repère pas. Dans le ventre de la mère, même si vous avez le gynécologue qui vous dit, mais vous êtes irresponsable. Un jour, dans une société parfaite, on vous obligerait à avorter. Vous vous rendez compte tout ce que ça coûte, un trisomique. Et donc, voilà. C'est impressionnant. Il y a des gens actuellement, ils avortent les becs de lièvre. Ah, mon fils, mon enfant va avoir cette cicatrice infamante. Voilà. Il va avoir un trou au palais, il va parler du nez pendant toute sa vie, il vaut mieux qu'il meure. Ouais. Original. Allez. Bon, il y a des enfants qui ont des malformations cardiaques et qui meurent au bout d'un jour, d'une semaine, d'un an. Eh bien, on porte nos corps, on porte les âmes, on porte les personnes. Avons-nous pu envisager le cas de la stérilité? Donc, vous n'êtes pas obligé d'adopter. Et bien sûr, là, ce sont les grands conseils, hein. Il vaut mieux adopter des bébés. Et il vaut mieux adopter des personnes qui vous ressemblent, au point de vue de la couleur de peau et de la culture. Mais ensuite, il peut y avoir... comment dire, ce sont des difficultés qui peuvent tout à fait surmonter. Je connais un couple qui voulait adopter plus vite, un couple qui a voulu avoir un petit enfant blanc bébé d'un mois ou 2 mois, 6 années. Et un autre couple a eu. Je crois que les Russes, ils n'acceptent plus parce que les homosexuels peuvent cacher le dossier jusqu'au dernier moment. Et donc, les Russes ne veulent plus nous donner de bébé. Mais vous avez les Colombiens. Moi, je connaissais un couple, ils ont adopté deux petits Colombiens, mais qui étaient vraiment des. Comment dire, des Indiens des Andes. Hein. Vraiment, et qui leur ressemblaient absolument pas. Mais l'amour dépasse la couleur de la peau et les cheveux, normalement. Mais ça peut être un peu difficile. On en avait déjà parlé. J'avais parlé d'une personne qui est partie à un moment donné avec son sac, hein, à 22 ans, pour aller essayer de retrouver sa mère en Roumanie. Il est parti 3 mois, il a cherché partout, il avait quelques machins, et il a fini par la retrouver. Il voulait absolument voir sa mère. Alors la mère adoptive, là-dedans, elle doit assumer, si vous voulez, cet appel du sang. Hein. Ensuite, ça peut rééquilibrer une personne qui est troublée par cet événement dans sa vie de ne pas être dans sa famille naturelle. Avec son papa et sa maman, mais avec un père ou mère adoptive. Mais c'est là qu'on voit que l'amour l'emporte sur le sang, normalement. Que représenterait pour nous la possibilité d'adopter? Qu'aimerais-je apporter à nos enfants? Donc ça, c'est l'éducation, on verra plus tard. Quel témoignage de notre amour en couple voudrions-nous donner? Accueil, ouverture aux autres, joie, équilibre. En ce moment, vous avez des Kurdes et des Afghans qui sont à la frontière grecque, voyez, et des Pakistanais, mais qui veulent plutôt rejoindre leur famille en Angleterre, au Royaume-Uni. Ils ne resteront pas trop en Italie, en France ou en Grèce. Mais voyez-vous. Donc je fais exprès d'être provocateur. L'accueil, les villageois avaient toujours la place du pauvre. Hein. Mais le pauvre, il dormait dans la grange quand même. Hein. Pas tôt. Non. Et puis, dans l'Ancien Testament, l'accueil de l'étranger et du migrant est importante, mais il doit se conformer aux lois d'Israël. Il doit absolument suivre les 10 commandements. Et il doit absolument respecter les règles religieuses de l'autre. C'est-à-dire, le premier qui travaille un jour de sabbat, on lui cassait la gueule. Donc on l'accueille, mais il doit respecter le temps religieux du peuple juif. Mais c'est un peu impressionnant. Dieu dit, vous avez été étranger en Égypte. Vous devez accueillir l'étranger. Mais il doit suivre vos lois. Dieu est très très logique. Hein. Accueil, ouverture aux autres, joie, équilibre, nous allons voir ça. Qu'aimerions-nous transmettre aux autres? Sommes-nous engagés dans des œuvres au service des autres? Envisageons-nous cela en couple? Allez. Quelles pourraient être les attentes de la société sur notre couple et les attentes de l'Église, paroisse, mouvement, association. Là maintenant, je vais vous donner un petit tableau, très drôle. Ah, je vais tout vous donner. Je vais tout vous donner. Sur ce tableau, enfin, c'est la dernière page. Alors, il y a des petits trucs qu'on peut trouver dans les préparations au mariage ludiques. Vous voyez, ce sont les petites béatitudes, les petits machins. Et donc. Le tableau. Qu'est-ce que c'est que ce tableau des passions? Eh bien, ce tableau des passions, c'est la psychologie humaine, la vraie. celle que vous n'aurez pas facilement dans tout ce qu'on vous fait, tout ce qu'on vous fait croire. Parce que ça, c'est la philosophie et la sagesse de toujours, de siècle en siècle. Vous voyez, le tableau des passions. Hein, donc, c'est les passions au sens strict, c'est tout ce qui dépend de notre nature humaine, corps et âme, et surtout le corps. Parce que nous avons un corps animal, et ce corps animal a un instinct, a des instincts, et nous fait réagir parfois plus vite que notre esprit et que notre intelligence. Sauf que ces passions sont unies avec une capacité d'abstraction, qu'est l'intelligence, et une capacité de choix libre, qu'est la volonté. Donc justement, notre vie est commandée d'une manière complexe hein, et pas simplificatrice par ce qui est bon et mauvais, par ce qui est agréable et désagréable, par ce qui est joyeux et triste. Nous sommes tout le temps entre ces deux réalités. Tout le temps. Tout ce que nous vivons, c'est ou c'est agréable ou c'est désagréable. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? C'est du manichéisme? Pas du tout, parce que c'est plein de nuances. Et la vie est très complexe. Mais fondamentalement, c'est le bien et le mal qui est toujours le juge de paix de tout ce qui nous arrive, de tout ce que nous pensons, de tous nos actes et de toutes nos paroles. C'est jusqu'à l'état du matelas, jusqu'au chauffage dans la pièce, jusqu'au temps de ce soir, on dit dans 5 minutes, youpi, on est libre. Voilà, tout est lié à ça. La nourriture, à chaque fois que vous achetez de la nourriture, vous regardez votre nourriture. Quand vous allez chez le boulanger, vous serez heureux ou malheureux selon que la baguette est cuite ou très cuite, ratée. Jamais vous n'accepterez une baguette, cramée. Jamais. Vous voyez. Jamais vous allez manger une tranche de jambon moisie. Jamais vous allez ouvrir une boîte de conserve ronde. Vous voyez. Vous l'envoyez à l'Institut du Bon Pasteur, à l'Institut du Pasteur pour réétudier le botulisme. Quand vous ouvrez une boîte de conserve et que ça fait et ça une odeur de cadavre, vous n'allez pas le manger. Même si c'est une choucroute William Sorin, tout ça, c'est pas une marque Carrefour, c'est William Sorin. Eh bien, le bien et le mal, c'est la passion, c'est la passion, c'est ce qui nous fait porter vers un objet. On aime le bien, c'est l'amour. Si vous êtes amoureux l'un de l'autre, c'est que l'autre est un bien pour vous. Il vous est cause de bonheur. Et le mal, la haine, c'est la séparation. On ne veut pas souffrir, on ne veut pas voir quelqu'un de pénible, ennuyeux. Quand c'est un père, une mère, un frère ou une sœur, c'est dur. Parce qu'on ne peut pas partir. On ne peut pas dire « c'est pas mon frère, c'est pas ma sœur ». Enfin, quoique de nos jours, il y a des frères et des sœurs qui ne se voient plus du tout et depuis des années. Pour un père et une mère, c'est plus difficile quand même. Même quand vous avez... Il faut vraiment que le père et la mère soient vraiment des gens méchants, mauvais. Donc, c'est l'amour et la haine, le bien, le mal, sont des réalités. Ensuite, on nuance. On a le désir du bien, et qui est absent. On veut être heureux pendant des années, c'est le désir du bien. Ensuite, le mal absent, on le fuit. L'aversion et la fuite, c'est plus fin que dire le mot haine. La haine, c'est de refuser le mal. Mais l'aversion ou la fuite, c'est de partir avant que le mal n'arrive. Vous voyez? C'est refuser la nourriture mauvaise, la faire partir, ne pas la manger. C'est un collègue de travail pénible, vous le voyez dans le couloir, vous faites demi-tour. Vous voyez quelqu'un sur le trottoir qui mendie, vous changez de trottoir. Parce que vous n'avez pas envie de lui donner de l'argent. Alors si vous voyez que c'est vraiment un miséreux qui a les mains sales et des chaussures pourries, vous dites, je vais lui acheter un sandwich ou je lui donne une pièce, mais il est vraiment dans la merde. Et si vous commencez à réfléchir, vous dites, c'est un rhum, il a été déposé là le matin, et il repartira l'après-midi, et il devra donner une somme au chef du clan. Est-ce que j'ai envie de contribuer à ça? Est-ce que ce clan est pauvre et que finalement c'est important pour eux? Vous voyez? Mais vous n'avez pas envie de donner, vous avez ceci, vous réfléchissez. Puis vous avez une personne qui est bien habillée qui vous dit j'ai raté mon. J'ai besoin d'argent, mais je vous rembourserai à la fin du mois, j'aurai. Il vous raconte un truc, vous savez que c'est faux. Vous fuyez. La joie, c'est le bien présent. La tristesse, c'est le mal présent. Donc si vous êtes triste, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a un mal sur vous. En vous, sur vous, près de vous. Et que vous avez envie de le fuir. Mais attention, il y a des maux apparents. En fait, c'est pas un mal, c'est votre imagination. Vous êtes trop dur, trop sévère dans votre appréciation et votre jugement. Vous voyez? Oh, il rend jamais rien, il perd toujours ses clés, il se lave pas. Mais si, il se lave correctement, mais vous. En fait, c'est parce que vous êtes pas bien en ce moment et tout est relevé. Tout est mauvais. Et donc vous êtes triste. Parce que vous avez plein de petits maux autour de vous. Vos enfants ne vous obéissent pas, vous n'arrivez pas à vous réconcilier avec une personne, vous n'arrivez pas à avoir un. Vous n'êtes pas reconnu dans votre travail. Vous voulez une augmentation. Mais il y a des personnes qui en font des maladies. Et qui, s'ils comparent leur salaire à d'autres salaires, quand même, voilà. Alors, peut-être que c'est injuste, mais peut-être que l'entreprise ne peut pas vous augmenter. Et si elle tombe en faillite à cause d'une politique salariale trop large, vous êtes bien. Mais voyez-vous, tout ce qui est triste, c'est un mal. Et c'est naturel chez nous, on repère le mal. Mais on peut s'imaginer qu'on est mal. Voyez. Les hypochondriaques sont des personnes qui s'imaginent toujours malades. Les hygiénistes, ce sont ceux qui considèrent que toujours les choses sont sales. Ils nettoient sans arrêt. Et jusqu'au toc, vous avez des gens qui ont des tocs, qui se lavent les mains tout le temps. Ben en ce moment, ça doit être la panique pour eux. Vous voyez, parce qu'au moins, ils ont une raison. Mais voyez-vous, c'est imaginatif. Nous, on doit être dans le réel. La passion de l'espoir, ça vous donne, plus que le désir, une énergie pour atteindre. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous avez l'espoir, l'espérance de surmonter. L'audace, c'est une passion qui est par rapport à un mal. Vous voyez ? Donc, c'est plutôt de la force d'âme, si vous voulez, de l'énergie contre quelque chose qui ne va pas bien. Vous voyez ? C'est de la persévérance, c'est du courage. Vous voyez, On parle plus de courage pour surmonter quelque chose de pénible que pour obtenir un bien. On parlera plus d'énergie si on utilise des mots un peu trop modernes. Le désespoir, c'est quand le bonheur s'éloigne de nous et qu'on pense ne jamais l'atteindre. C'est ça le désespoir. La tristesse, c'est un mal qui est sur nous. Mais le fait que le bien soit inaccessible, ça devient un mal. L'absence de ce bien tant désiré devient de la tristesse. Parce que, comment dire, comment on appelle ça? En empreinte inversée, en défaut, vous voyez, c'est un mal, l'absence du bien. Et la crainte, c'est quand vous avez peur d'un mal qui vient sur vous, qui n'est pas encore présent. Et quelles sont vos peurs? Est-ce que vous allez vraiment mourir? Est-ce que vous allez vraiment mourir de faim si vous avez un autre enfant? Et vous avez tellement peur, vous dites, ah non, 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 ah ben non, on va te rendre compte, on va devoir changer d'appartement et tout ça. Eh bien, cette crainte, elle est sur notre monde moderne sans arrêt en ce moment. Et c'est un des points finalement économiques, hein. Actuellement, l'Occident crève de pas d'une démographie, en fait, on a peur de perdre notre confort et notre vie moderne. Mais là, c'est excessif. Actuellement, c'est vraiment excessif. Autant, ah oui, on a eu une préparation de mariage, on nous a parlé que de ça, les cathos, ils veulent toujours des enfants. Mais c'est quand même un point du mariage, hein, c'est pas négligeable. Et actuellement, on est dans une société qui fuit tout ce qui lui fait peur. Et la colère, c'est une énergie ultime. Quand vous avez quelque chose que vous voulez repousser ou atteindre, c'est pour ça que c'est entre les deux, mais c'est plutôt par rapport au mal, mais on le met quand même entre les deux. La passion de la colère, normalement, doit être utile pour vous gendarmer, pour vous renforcer. Mais la colère ne doit pas être pour détruire un bien, ou l'être aimé, pour vous donner de la force, pour être impitoyable. La colère, ça peut être l'indignation qui vous permet de surmonter quelque chose d'injuste. C'est ce qu'on appelle les saintes colères. Vous pouvez vous mettre en colère, mais pour quelque chose de bon et juste. Eh bien, voyez-vous, on le reprendra, mais je peux vous assurer que ces mots-là, peur, crainte, tristesse, joie, espérance, ce sont des mots qui sont des réalités et qui vous accompagneront toute votre vie. Et la clé que je vous donne, et dont je vous reparlerai la prochaine fois, c'est est-ce que c'est vraiment mauvais pour vous ce qui vous arrive? Est-ce que vous êtes triste pour rien? Où est votre trésor? Où est votre vrai bien? Poursuivez le bien. Si vous avez des inconvénients à atteindre ce bien, et s'il est difficile, persévérez. Mais si vous savez où est le bien, où est le mal objectivement, et pas dans votre imagination subjectivement, mais soyez courageux, soyez fort. Soyez intelligent, écoutez la voix de votre conscience. C'est Dieu qui vous parle, hein, quand vous savez intimement ce qui est bien, ce qui est mal. C'est une voix divine. C'est une voix divine qui vous parle. Le bien, le mal, intrinsèquement chez vous, c'est une des preuves de l'existence de Dieu, c'est la conscience humaine, que les animaux n'ont pas. Ils ont des craintes, ils ont des peurs, ils ont des joies, ils ont des tristesses, mais c'est totalement dans l'instant. Nous, c'est dans la réflexion, l'abstraction, l'intelligence, la liberté, la conscience. C'est totalement différent. Et on peut même soigner des personnes qui sont bipolaires ou schizophrènes en leur répétant et en leur répétant toujours ce qui est vraiment bien, ce qui est vraiment mal. Voyez? Mais il faut une patience extraordinaire avec les gens qui ont des problèmes psychiatriques. Parce qu'ils sont dans la psychose, c'est-à-dire qu'ils ont des peurs incontrôlées et pas objectives. La névrose, ce sont des peurs qui ont une vraie cause, mais exagérée. La psychose, c'est des peurs sans cause. C'est vraiment impressionnant, c'est ce qu'on appelle la folie, la psychose. Mais dans leur imagination délirante, il y a encore du réel. Ils imaginent que c'est un mal, ils imaginent que c'est un bien. La névrose, c'est un certain mal, un certain bien excessivement développé, ou plus ou moins développé. On est tous un peu névrosés, paraît-il, dans le sens où on a trop peur, où on désire trop. In medio stat virtus, au milieu se trouve la vertu et la vérité.